Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Xavier Martinet, Paloma Soria Brown et Iseut Sikar. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la technique, Nasser Moussaoui.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Si dans les tout premiers jours du confinement, les ménages se sont rués sur les paquets de pâtes et de farine, les pays, eux aussi, ont cherché à faire des réserves. Achats massifs de blé, restrictions sur les exportations de riz, la hantise de la pénurie a fait flamber les prix de certaines denrées, ravivant la peur d'une crise alimentaire. Pourtant, c'est plutôt à un choc de surproduction que fait face aujourd'hui le marché des matières premières. Le baril de pétrole a même atteint des prix négatifs, une crise à laquelle seul le stockage serait en mesure de répondre. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure logistique d'Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de l'approvisionnement du monde en matières premières en compagnie de Philippe Chalmin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine, président fondateur de Cyclope, un institut de recherche européen sur les marchés des matières premières, qui publie chaque année un rapport de référence sur le sujet. Merci beaucoup d'avoir accepté à cet exercice périlleux de l'entretien à distance. Et d'abord, commençons par un effort de définition. Qu'est-ce qui caractérise les matières premières, Philippe Chalmin ?
Bien, matière première, a priori, c'est un produit peu ou pas transformé du tout, ou du moins ayant subi un minimum de transformation lui permettant de faire l'objet d'un commerce international. Et donc on parlera de matières premières pour la plupart des produits agricoles, certains ayant déjà subi une transformation, puisque le sucre est une matière première faite à partir de betteraves ou de canne à sucre qu'on ne peut pas conserver, donc que l'on transforme. De la même manière, on parlera de matières premières pour des minerais, mais aussi pour des métaux. Bon, ça, c'est la définition, je dirais, française. Et puis, en anglais, on peut dire « raw materials », mais on dit aussi « commodities ». Et on a même francisé un peu en commodité. Et cette notion de commodité, elle est beaucoup plus liée au mode de fixation du prix, un prix qui se fixe par rencontre de l'offre et de la demande, et dont la caractéristique, ces dernières années, a été l'instabilité. Et donc, dans un monde comme celui que nous vivons aujourd'hui, marqué justement au coin de l'instabilité, eh bien, les marchés de matières premières sont tout à fait représentatifs de cette instabilité quotidienne qui fait que demain, je ne sais pas ce que sera le prix du pétrole, le prix du blé, le prix du cuivre. Je sais simplement qu'il sera différent d'aujourd'hui.
Cette instabilité, Philippe Chalmin, est d'abord liée aux facteurs météorologiques ?
Alors, un prix à un moment donné, c'est la rencontre entre une offre et une demande. Du côté offre, il est clair que le facteur météorologique va jouer, notamment pour les produits agricoles, mais pas seulement pour les produits agricoles. Imaginez un hiver très dur, très froid. Eh bien, vous consommerez, notamment aux États-Unis, plus de gaz naturel pour vous chauffer. La demande sera plus importante. Mais grossièrement, c'est quand même sur les produits agricoles que l'incertitude climatique est la plus grande. Mais vous pouvez aussi avoir des incertitudes géopolitiques. Le prix du pétrole est largement dépendant de toutes les incertitudes dans les relations dans le golfe arabo-persique. Donc ça, c'est la partie offre. Quant à la partie demande, elle est liée, bien entendu, à la croissance économique. Et nous savons, et nous venons cruellement d'en prendre conscience en ces 3 mois de confinement, nous avons vu la demande de pétrole baisser pratiquement de 30% entre le mois de janvier et le mois de mai.
Ce qui est peut-être une spécificité de ce marché des matières premières, Philippe Chalmin, c'est le fait que c'est un marché rigide dans lequel la production met du temps à s'adapter à la demande, et c'est notamment le cas du pétrole.
C'est le cas du pétrole, bien entendu. Mais c'est le cas de très nombreuses productions que je qualifierais de fatales. En matière agricole, par exemple, si vous avez semé du blé, vous devrez le récolter, quel que soit le prix du blé, même si ce prix s'est effondré. Pour le pétrole, c'est la même chose. Lorsque vous avez un puits, il peut être très coûteux de l'arrêter. En Russie, par exemple, il faut absolument continuer à produire, y compris en plein hiver en Sibérie, parce que sinon, le gel risque même de condamner les puits qui ne pourront plus être réouverts. Vous avez, d'ailleurs, dans d'autres domaines, lorsque nous avons eu des baisses de la consommation d'électricité, bien la production d'électricité en Europe, elle était quasiment fatale. C'est pas parce que la consommation baisse et que le prix baisse que vous allez arrêter une centrale nucléaire. Donc, il y a forcément toujours un temps de latence, et dans certains cas même, la réaction de l'offre ne peut venir que beaucoup, beaucoup plus tard par rapport au message qui est envoyé par la baisse du prix qui signifie que le marché est excédentaire.
Un dernier mot pour réussir à bien définir ces matières premières. Vous parliez des commodités, Philippe Chalmin, c'est une façon de traduire le fait qu'il y a eu une volonté de standardiser les matières premières afin de faciliter les échanges entre les pays ?
Oui, alors ça, c'est effectivement la grande caractéristique, c'est que nous sommes sur des biens fongibles. Alors il peut y avoir des différences, mais ils se raccrochent quand même à de grandes catégories de base. Lorsque vous traitez du blé, vous arrivez à le définir de manière très claire. Vous aurez du blé à tant de pourcentage de protéines, tel taux de Hagberg ou je ne sais quoi, etc., tel pourcentage de poussière, de manière à ce qu'il n'y ait aucune contestation possible. Un baril de Brent sera différent d'un baril de West Texas Intermediate, etc. Donc, on arrive à une très grande fongibilité. Vous sortez de la commodité lorsque vous arrivez à mettre en évidence une différenciation qui peut être géographique, qui peut être qualitative, qui peut être commerciale.
Par exemple,
un vin de 10 degrés, c'est une commodité. Un château du Bordelais, vous rentrez dans une logique de marque. On est même allé, pour les produits industriels, dans le monde des semi-conducteurs, on considère que les puces sont des commodités. Et à un moment, Intel, qui fabrique des circuits intégrés, avait pris conscience du danger qu'il y avait à finalement voir ses produits se banaliser et à lancer une notion de marque. Et vous aviez sur certains ordinateurs Intel Inside, parce que on laissait supposer aux consommateurs qu'il y avait une qualité supérieure. Et toute la logique d'ailleurs des industriels au stade de la première, de la seconde transformation, c'est de se demander est-ce que je suis dans le monde de la commodité ou est-ce que je sors de la commodité ? Vous avez eu beaucoup d'entreprises dans le domaine industriel, dans le domaine agroalimentaire, qui ont abandonné finalement les produits banalisés pour se concentrer sur des produits sur lesquels ils pouvaient signer leur marque. Le riz est une commodité, Uncle Ben's n'en est pas une.
Et dans ce marché des matières premières particulièrement instable, il y a un facteur qui fait varier les prix, c'est le stockage. L'un des meilleurs exemples, c'est le pétrole.
These are sites that have never been seen and oil tankers stretching from
ce sont des images encore jamais vues auparavant. Des tankers remplis de pétrole sur des kilomètres au large de la côte californienne. C'est vraiment incroyable. Le monde du pétrole est à court d'espace de stockage et ces énormes bateaux sont un moyen de pallier le manque de place.
We have a few odd balls left in really difficult logistical locations.
Il nous reste quelques espaces de stockage dans des endroits compliqués à atteindre, avec des limitations et des restrictions. Ce sont les dernières options rapidement disponibles avec lesquelles nous pouvons travailler. Mais en général, le marché des capacités de stockage est saturé.
On entendait le journaliste américain Brian Sullivan et la responsable de la compagnie maritime RVB, Krien Van Beek. C'est la forte baisse de la demande, on l'a dit, mais aussi la saturation du stockage qui explique aujourd'hui la chute historique du baril de pétrole, Philippe Chalmin.
Alors, on a vécu un moment un peu exceptionnel qui tenait très franchement, à mon sens, de la manipulation. Mais c'est vrai que pendant 3 heures, le lundi 20 avril, entre 4 heures et 6 heures, à la fermeture du marché, on s'est trouvé dans une position telle que des gens qui avaient acheté du pétrole et qui devaient normalement en prendre livraison le lendemain, se sont retrouvés dans une position dans laquelle il n'y avait aucun endroit où ils pouvaient recevoir le pétrole qu'ils avaient acheté, parce qu'il n'y avait pas de stockage libre à l'endroit où doivent se faire les livraisons physiques sur le contrat de New York. C'est extrêmement pointu. Donc, quand tous les journaux le lendemain ont dit « le pétrole est à moins 40 dollars le baril », etc., ça n'était pas vrai. C'était simplement que à Cushing, dans l'Oklahoma, qui est le lieu de livraison du contrat du baril de pétrole américain coté à New York, il n'y avait plus de place, ou du moins les quelques places qui restaient encore avaient été réservées, et un certain nombre d'acheteurs ont été victimes de ce que l'on pourrait appeler un squeeze, c'est-à-dire qu'ils ont été étranglés, et comme ils n'avaient pas les moyens de prendre livraison ce pétrole, il leur a fallu payer pour finalement annuler leur contrat, et ce coût est descendu jusqu'à 40 dollars le baril. Donc ce sont des gens qui ont perdu beaucoup d'argent, ce sont notamment, dit-on maintenant, et on commence à le savoir un peu, des fonds chinois. Je dirais que ça, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, ça a fait beaucoup de bruit, tout le monde en a parlé.
Mais ce que ça nous prouve, Philippe Chalmin, c'est que les stocks peuvent être utilisés comme des outils de spéculation.
Alors, objectivement, c'est quand même la première fois que ça arrive. Hein. Et dans une situation très, très particulière, avec, c'est vrai, une augmentation tout à fait considérable de la production de pétrole aux États-Unis. Ils avaient une production, en particulier au large du Texas, dans le golfe du Mexique, qui était en baisse. Et puis, il y a eu le développement de ce qu'on appelle le pétrole de schiste. Et c'est ce qui a permis aux États-Unis de devenir, depuis 2 ans, le premier producteur mondial de pétrole, au point d'ailleurs de commencer à pouvoir exporter. Arrive la crise du coronavirus, une baisse historique. Rendez-vous compte, 3/4 de la demande mondiale de kérosène pour les avions a disparu. La moitié de la demande d'essence aux États-Unis, c'est considérable. Donc on ne savait plus où mettre ni le pétrole brut, ni les produits raffinés. Et c'est là qu'effectivement est intervenu ce squeeze sur les capacités de stockage qui, je le répète, est un peu un épiphénomène, mais qui montre bien l'importance qu'il pouvait y avoir à ce que on dispose de capacités de stockage. Les États-Unis avaient des capacités de stockage normales, mais face à une baisse pareille de la consommation, il n'y en a pas eu assez. Et dans le reportage, on le dit, puisque on s'est mis à louer des tankers pour stocker du pétrole.
Ce que l'on comprend bien, Philippe Chalmin, c'est que le stockage comporte un certain nombre d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?
Mais pour stocker, il faut regarder quelle est la structure du marché. Sur les marchés à terme, on cote ce qu'on appelle des échéances. Et on cote en général de l'échéance la plus rapprochée. Nous sommes au mois de mai, donc là, on cote l'échéance juin, et puis vous cotez du 2021, du 2022. En situation normale, eh bien, le prix aujourd'hui est inférieur au prix de demain, puisque le prix de demain, c'est normalement le prix d'aujourd'hui, plus les frais de stockage, plus les frais financiers pour porter finalement ce stock. Cette situation normale, on appelle ça un contango. Il se trouve que sur les marchés pétroliers, on est souvent dans des situations inverses. C'est-à-dire que le rapproché coûte plus cher que l'éloigné, ceci étant souvent lié à des accidents géopolitiques. Lorsque vous avez eu, par exemple, l'attentat qui a coûté la vie à un général iranien à Bagdad fin décembre, ben vous avez eu des tensions immédiates sur le rapproché, alors que les cotations de 2021, finalement, bougeaient relativement peu. Et là, c'est ce qu'on appelle un marché en backwardation. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est en contango et que, finalement, il est assez rentable d'acheter aujourd'hui du pétrole, d'en prendre livraison si on a justement les capacités de stockage ou si on est capable de louer des navires pour stocker ce pétrole, quitte à le revendre déjà aujourd'hui pour livraison dans 6 mois. L'opération, aujourd'hui, est assez rentable et ça a permis donc de porter quelque part les stocks. Il faut se rendre compte que entre janvier et juin de cette année, on estime que les stocks mondiaux de pétrole ont augmenté de 1,3 à 1,5 milliards de barils.
Sur cette question du marché à terme, Philippe Chalmin, il a été conçu pour se prémunir des risques et en même temps, ce sont ces contrats à terme qui permettent de spéculer sur les matières premières ?
Oui, vous avez très bien résumé le paradoxe profond des marchés à terme ou marchés de futures. Ils ont été créés pour permettre à tous les opérateurs, à tous ceux qui, à un moment ou à un autre, sont en risque sur un produit qu'ils ont acheté sans déjà le vendre, qu'ils ont vendu sans déjà l'avoir, donc ils courent un risque de prix, et grâce au marché à terme, ils peuvent faire ce qu'on appelle un arbitrage en couverture d'actifs. Mais, pour faire cet arbitrage, il faut qu'en face d'eux, il y ait quelqu'un. Il faut que le marché soit très liquide. Et le marché ne peut être liquide que s'il y a des gens qui sont prêts à venir jouer, qui sont prêts à venir investir, qui sont prêts à spéculer. Et il faut appeler un chat, speculare en latin, ça veut dire regarder en avant, et c'est bien cela. Nous sommes tous, d'une certaine manière, des spéculateurs. Donc, par exemple, lorsque, le 20 avril, on est arrivé à des niveaux négatifs, bah, nous avions des investisseurs qui n'étaient pas des professionnels, qui n'étaient pas des gens qui allaient prendre vraiment livraison de pétrole, simplement qui étaient là en ayant acheté, qui attendaient, qui espéraient, qui spéculaient sur une remontée des prix du pétrole. Aujourd'hui d'ailleurs, on se rend compte, nous sommes dans les premières semaines de mai, et nous voyons bien que, bon, avec la fin du confinement, avec éventuellement la reprise de la consommation en Chine, il y a un certain nombre de gens qui commencent à rejouer un peu la hausse du pétrole, donc qui achètent des contrats. Mais tout ça, c'est du papier. Ça n'a pas vocation, normalement, à se transformer physiquement, sauf à la dernière heure, du dernier jour, de la dernière échéance, où effectivement, il peut y avoir une livraison physique du produit.
Mais alors, ne faut-il pas mieux réguler ce marché pour éviter justement une trop forte volatilité des prix, et notamment des prix agricoles? C'est ce que demande Oxfam France. Je vous propose d'écouter Clara Jamar, responsable du programme Plaidoyer pour la sécurité alimentaire au sein de l'association.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que spéculer, c'est parier sur l'évolution des cours des matières premières agricoles avec évidemment l'objectif de faire du profit. Et pour ce faire, il y a plusieurs outils qui existent, et notamment des outils toxiques que l'on dénonce dans le rapport publié aujourd'hui, que sont les fonds indexés sur les cours des matières premières agricoles. Les prix, notamment des denrées alimentaires de base, augmentent, mais aussi sont de plus en plus volatiles. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pics de prix de plus en plus fréquents, et c'est d'ailleurs ce qu'on observe, et ces pics de prix correspondent en général à des crises alimentaires extrêmement graves, telles que celles qu'on a connues en 2008, en 2010, puis en 2012. Et il faut comprendre que les ménages les plus pauvres, notamment dans les pays du Sud, s'ils souffrent aujourd'hui toujours de la faim, il y a quand même toujours une personne sur neuf qui souffre aujourd'hui de la faim dans le monde, et bien c'est tout simplement parce que ces ménages n'ont pas les moyens financiers d'accéder aux denrées alimentaires de base. On produit assez de nourriture pour nourrir l'ensemble de l'humanité, les plus pauvres n'y ont tout simplement pas accès.
La spéculation mal régulée, Philippe Chalmin, est susceptible d'entraîner des crises alimentaires?
Non. Et excusez-moi, cette réflexion d'Oxfam est un salmigondi de vœux pieux marqués au coin de la méconnaissance absolue de ce type de marché. Effectivement, il y aurait manière, et il y a matière, à stabiliser les prix des marchés agricoles. C'est ce que l'on a fait longtemps, on n'y est jamais arrivé au niveau mondial. Il y a eu des tentatives d'accords internationaux, ça n'a jamais vraiment marché. On l'a fait à l'intérieur d'une zone géographique, ça a été notamment la politique agricole commune. Pour des tas de raisons, notamment politiques, on a jeté la politique agricole commune, et là on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. Aujourd'hui, un prix agricole, c'est simplement le résultat, alors, de l'offre et de la demande, mais surtout de l'anticipation que vont se faire les opérateurs de ce que sera demain le rapport entre l'offre et la demande. Je vais vous en donner un exemple qui est tout à fait évident, qui est le comportement du blé et du maïs depuis 3 mois, donc pendant le coronavirus. Vous avez remarqué en introduction que les prix du blé n'ont pas vraiment augmenté, ils sont restés à des niveaux, soyons honnêtes, relativement rémunérateurs pour les producteurs. Pourtant, la campagne 2019-2020 a été excellente, et la campagne 2020-2021, malgré un petit stress hydrique ça et là, s'annonce tout à fait excellente. Ce qui s'est passé, c'est que de la même manière que les ménages se sont rués sur les stocks de farine et de pâtes alimentaires, un certain nombre de pays importateurs ont voulu se garantir, souvent avant le Ramadan, leurs approvisionnements, et donc ont acheté plus en fin de campagne, ce qui a permis de maintenir les cours. Et grossièrement, entre le 1er janvier et le 30 avril, le prix du blé, exprimé en dollars, est resté à peu près stable au niveau mondial. Par contre, le prix du maïs a baissé de 25%. Pourquoi est-ce que le prix du maïs a baissé de 25%? C'est que un tiers du maïs aux États-Unis sert à fabriquer de l'éthanol. Et donc le maïs a été victime de l'anticipation d'une baisse de la demande d'éthanol, donc d'une baisse de la demande de maïs. Est-ce que aujourd'hui le prix du blé est juste? Est-ce que le prix du maïs est juste ou injuste? Cette notion de juste prix, elle est, je dirais, totalement secondaire. À un moment donné, un prix reflète la somme des anticipations que l'ensemble des acteurs d'un marché se fait de ce que sera demain le rapport entre l'offre et la demande. Appelez ça spéculation, oui, c'est de la spéculation, mais quand on compare les marchés pour lesquels il y a des outils financiers et les marchés pour lesquels il n'y en a pas, il n'y a pas d'outils financiers sur le riz par exemple, eh bien c'est sur le riz que nous avons eu lieu hausse de prix les plus importantes sur ces 4 derniers mois, puisque grossièrement, le prix du riz entre le 1er janvier et la fin avril a augmenté de 10%, un peu pour les mêmes raisons que pour le blé, mais là, il y a eu plus de tension, parce qu'il n'y avait justement pas les outils financiers permettant quand même de lisser les tendances.
On va voir quand même dans quelle mesure la puissance publique, l'État, peut permettre de réguler ces prix, et notamment dans le secteur stratégique des denrées alimentaires. Mais pour finir sur la question du pétrole, Philippe Chalmin, vous l'avez dit tout à l'heure, cette surproduction de pétrole s'explique aussi par des raisons géopolitiques, et notamment par les difficultés de l'Arabie Saoudite et de la Russie à s'entendre sur des quotas.
C'est vrai que nous avons eu, à l'intérieur de la crise du coronavirus, un premier contre-choc pétrolier qui n'avait rien à voir avec le coronavirus, qui avait beaucoup à voir avec l'ego de Mohammed bin Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, et un petit peu quand même du côté de Poutine. Ce qui est clair, c'est que le 4 mars, à un moment où on n'avait pas pris conscience de l'ampleur de la crise économique qu'allait provoquer le coronavirus, que l'Arabie Saoudite a déclenché une guerre pétrolière en jetant aux orties tous les quotas sur lesquels bon le marché avait un peu tablé depuis 2 ans. Donc, le 4 mars, l'Arabie Saoudite déclenche une guerre et décide d'augmenter de manière considérable sa production pour casser le marché et en particulier casser les débouchés russes, voire les débouchés américains. Là-dessus, on a eu le deuxième contre-choc pétrolier, cette fois-ci lorsqu'on prend conscience de la baisse de la demande. Donc on est passé, je vous le rappelle, de 70 à 30 dollars le baril, et puis de 30 à 15 dollars le baril. À ce moment-là, tout le monde s'est dit, il faut quand même qu'on arrive à trouver quelque accord. Et là, tout le monde s'est mis autour de la table. Trump a joué un rôle très important, et finalement, ils se sont mis d'accord pour réduire la production d'un côté, sachant qu'aux États-Unis, la baisse des prix a impliqué pratiquement automatiquement une baisse de la production de la part des producteurs de pétrole de schiste.
Et quelles conséquences ça a eu sur les compagnies pétrolières notamment?
Les grandes compagnies pétrolières, elles ont quand même les moyens de faire le gros dos. Elles ont toutes, bien entendu, réduit leurs investissements. Mais ça risque d'être un carnage parmi les petites compagnies pétrolières américaines, celles dont les productions sont relativement faibles, que ce soit dans le Dakota, au Texas ou autre. Mais à la limite, aux États-Unis, qui restent quand même un pays d'économie libérale, ça ne choque pas. Quelque part, il y a déjà eu d'ailleurs des contre-chocs pétroliers, celui-ci qui risque d'être quand même beaucoup plus profond, et surtout, on va mettre beaucoup plus de temps à relever la tête.
Et puis ça peut avoir des conséquences dramatiques sur certains pays, Philippe Chalmin, l'Algérie par exemple, où le pétrole est l'une des seules ressources économiques.
Ah mais ça c'est évident. Jusque-là, je vous parlais des grands pays. Les principales victimes, ce sont tous les pays qui, finalement, n'ont pas bien géré la rente pétrolière sont devenus dépendants du pétrole. C'est l'illustration d'une variété de ce que les économistes nous appelons le mal néerlandais, la Dutch disease. Moi, j'appelle ça la malédiction du pétrole. Donc, vous avez tout à fait raison. Les principales victimes, c'est l'Algérie, c'est le Nigeria, c'est l'Angola, c'est le Venezuela, bien entendu, etc. On mesure d'ailleurs combien la rente pétrolière a pu être gâchée. Imaginez que c'est le Venezuela qui détient les plus grosses réserves pétrolières mondiales. Et c'est un pays aujourd'hui en état de faillite profonde, sans parler de sa situation géopolitique. Mais vous preniez le cas de l'Algérie, on estime que son point d'équilibre fiscal, c'est-à-dire le prix du baril de pétrole qui lui permettrait d'équilibrer son budget annuel, se situe aux alentours de $110 le baril. Nous sommes aujourd'hui à un peu moins de $30 le baril.
Et puis la dernière victime de ces tarifs bas du pétrole, ce sont peut-être les énergies renouvelables qui sont devenues moins compétitives.
Oui, alors ça, c'est évident, mais tout le monde se focalise sur le pétrole. Je signale qu'il y a une baisse encore plus importante, qui est celle du gaz naturel. Alors, ça n'est pas mauvais, parce que le gaz naturel est quand même beaucoup moins polluant que le pétrole, et surtout, à la limite, le pétrole, pour l'instant, on a du mal à s'en passer dans la fonction transport. Par contre, dans la fonction production d'électricité, le pétrole joue à peu de place. Et le vrai débat, c'est le remplacement du charbon atrocement polluant par le gaz naturel. Donc, quelque part, la baisse des prix du gaz naturel, qui ont atteint des niveaux si bas qu'ils n'avaient jamais atteint jusque-là, cette baisse des prix peut-être une bonne nouvelle. Maintenant, comme vous le dites, pour l'ensemble des énergies renouvelables, c'est un nouveau défi. Une des bonnes conséquences de la crise du coronavirus, ça a été d'un côté la baisse des émissions de CO2 de la planète, mais malheureusement de l'autre, la baisse du prix de la tonne de carbone sur le marché européen.
Et puis, vous l'avez dit, Philippe Chalmin, il faut aussi souligner que la chute des prix du pétrole a eu un impact sur d'autres matières premières qui servent à fabriquer des biocarburants. Et là, on peut parler du maïs américain ou du sucre brésilien, entre autres.
Oui, vous avez tout à fait raison. Le sucre est retombé dans des abysses. Alors, pourquoi le sucre? Parce que le Brésil est le premier producteur mondial de canne à sucre et qu'avec cette canne à sucre, on peut soit faire de l'éthanol, soit faire du sucre. Lorsque le prix de l'éthanol suit le prix du pétrole et s'effondre, eh ben on a tendance à aller faire plus de sucre sur un marché qui était déjà excédentaire malheureusement, et le prix du sucre était déjà à des niveaux relativement faibles, pour une raison d'ailleurs qui est intéressante, c'était que l'Inde est devenue tellement excédentaire en sucre que le gouvernement indien en était réduit à subventionner ses exportations. Vous voyez, c'est cette histoire des subventions à l'exportation agricole, et on a souvent montré du doigt les Européens, les Américains. Ben là, l'année dernière, c'était les Indiens qui subventionnaient leurs exportations de sucre. Donc le sucre, on peut mentionner aussi l'huile de palme, qui était utilisée pour du biodiesel, alors ça réjouira peut-être certains, mais c'est vrai qu'un certain nombre de produits, prenez le cas du coton. Le coton a été touché par la crise du coronavirus, d'abord par la baisse de la demande de l'industrie textile qui s'est trouvée pratiquement en état d'arrêt total, mais aussi par la baisse du prix des textiles synthétiques issus de la pétrochimie.
La pandémie du Covid-19 a également réveillé les craintes de pénurie alimentaire. Pourrait-on assister à de nouvelles émeutes de la faim comme en 2008 ? Élément de réponse dans un instant.
Le pétrole.
Ah. Moi, j'aime le pétrole. Oh, oh, oh. Il aime le pétrole. Il aime le pétrole. Nous aimons le pétrole. Vous aimez le pétrole. Ils aiment le pétrole. Oh, oh, oh.
J'aime ça, le pétrole.
Thank you.
n'importe quoi pour du pétrole.
Moi, j'aime le pétrole.
Tout pour du pétrole.
Pétrole Pop de Jean-Yann et Michel Magne sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. L'économiste Philippe Chalmin est toujours avec nous pour parler de l'approvisionnement du monde en matières premières. La crise du Covid-19 a réveillé la hantise des pénuries agricoles. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a tiré la sonnette d'alarme. Elle redoute une nouvelle crise alimentaire comme celle de 2008.
Ce fut une révolte, celle des ventres vides. Un cri de colère mondiale, celui des crèves la faim. Contre la flambée des cours des prix alimentaires, un ras-le-bol qui va vite virer à l'émeute dans une vingtaine de pays, à commencer par le plus pauvre. Jour de braise, à Port-au-Prince, où devant le palais présidentiel, les casques bleus de l'ONU perdent patience et finissent par faire le coup de feu. 6 morts, 100 de blessés. Haïti s'embrase à cause des prix du riz et du lait, en hausse de 50% quand chacun survit avec moins d'un euro par jour. On ne veut plus du président Préval, nous n'avons plus que nos ordures à manger, assure cette femme. Au Cameroun, les émeutes de la faim paralysent le pouvoir qui appelle l'armée au secours. 40 de morts, bilan officiel. Un pays d'autant plus étranglé qu'il importe 95% de son riz, devenu produit de luxe.
Philippe Chalmin, rappelez-nous ce qui avait provoqué la flambée des cours du maïs, du soja, du blé et du riz à l'origine des émeutes de la faim de 2008.
Alors, je n'aime pas ce terme d'émeute de la faim. Je préfère que l'on parle d'émeute de la pauvreté alimentaire et certainement d'émeute de la malgouvernance. Ce qui est exact, c'est que entre 2008 et 2012, nous avons eu une série d'accidents climatiques majeurs qui intervenaient après une assez longue période marquée par des excédents et donc, je dirais, par un moindre intérêt porté aux questions agricoles et alimentaires. En 2008, il y a eu un épisode climatique qui s'appelle El Niño et qui modifie totalement le climat dans toute la zone Pacifique. En 2010, on avait eu la canicule en Russie, en 2012, des sécheresses aux États-Unis. Et donc, c'est vrai qu'on a eu une période de 5-6 ans durant lesquels les bilans mondiaux étaient à peine à l'équilibre, voire déficitaires. Néanmoins, je voudrais rappeler que là où il y a eu des émeutes de la faim, c'était essentiellement des émeutes de la pauvreté alimentaire. On a pris le cas d'Haïti, on a pris le cas du Cameroun, lié à la malgouvernance. Et à la limite, aujourd'hui, nous savons, et ça c'est la FAO qui en sort les chiffres, qu'il y a à peu près 850 millions de gens dans le monde qui non pas souffrent de la faim, mais souffrent de pauvreté alimentaire. La FAO a sorti récemment un chiffre de 130 millions de personnes l'année dernière qui ont vraiment souffert de la faim. Souffrir de la faim, c'est quantitatif, c'est ne pas avoir suffisamment à manger. Mais ça, c'est essentiellement dans des régions marquées par la folie des hommes, puisque les pays les plus représentatifs, c'était le Yémen, c'était le Soudan, c'était l'Afghanistan. Ce sont donc des pays marqués par des guerres civiles, et où la faim est la compagne de tous les autres malheurs qui peuvent affecter les populations.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un risque de pénurie alimentaire, Philippe Chalmin? Quelle différence entre la situation actuelle et celle de 2008?
La situation actuelle est telle que cela fait 3 ans que nous avons d'excellentes récoltes, que nous n'avons pratiquement pas eu un accident climatique à nous mettre sous la dent, si ce n'est peut-être la sécheresse et les images des incendies que vous avez eus en début d'année en Australie. Mais en dehors de cela, jamais le monde n'a autant produit. Et les dernières statistiques du Conseil international des grains pour la campagne 2020-2021, on raisonne en année de campagne qui démarre le 1er juillet, donnent pour le blé comme pour le maïs des récoltes records. Donc, il n'y a pas de problème en termes de production.
Des récoltes records, mais peut-être des problèmes d'approvisionnement et donc de logistique, d'acheminement de ces denrées alimentaires.
Même pas. Pendant le Covid, la France a battu ses records en termes d'exportation. On aurait pu penser que la France, en plein confinement, ait des problèmes dans la logistique de ses exportations de blé. Eh bien, au mois d'avril, jamais la France n'avait exporté autant de blé hors d'Europe, donc par voie maritime. Donc, je crois que là, le problème est moins là que ça va être encore un problème de pauvreté. Regardez l'Algérie. Le baril de pétrole est à 25 dollars le baril. Je vous ai dit que leur point d'équilibre fiscal était à 110 dollars, que les réserves financières de l'Algérie lui permettront de tenir encore un ou deux ans. Et la légitimité démocratique du gouvernement algérien, elle tient aussi aux subventions, aux prix alimentaires permettant d'éviter justement ces émeutes de la faim. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a toujours un paradoxe. Lorsque les prix sont bas, les zones urbaines peuvent se nourrir, mais ce sont dans les zones rurales que les paysans meurent de faim. Mais on meurt de faim sans qu'il y ait des caméras et des micros. Par contre, dans les villes, lorsque les prix sont trop élevés, ce sont des révoltes, ce sont des révolutions. Mais aujourd'hui, je dirais que nous n'avons aucune raison de craindre quelque pénurie alimentaire que ce soit.
Pas de pénurie alimentaire, peut-être des pénuries de main-d'œuvre, en revanche, Philippe Chalmin.
Alors, il y a un, le problème d'un certain nombre de pays qui n'auront peut-être pas les moyens de subventionner l'alimentation dans les villes. Deux, nous avons une région du monde qui est déjà parmi les plus pauvres et qui, elle, fait face à une catastrophe dramatique qui est une invasion de criquets pèlerins qui est en train de ravager les récoltes en Afrique de l'Est, donc des pays comme le Soudan, la Somalie et l'Éthiopie, qui franchement n'avaient pas besoin de cela. Donc là, il risque d'y avoir d'ailleurs des besoins d'aide alimentaire, incontestablement. Et trois, pour un certain nombre de productions, il pourrait y avoir des problèmes de main-d'œuvre. C'est déjà le cas, par exemple, nous sommes au mois de mai, c'est en Inde la période de la récolte du thé. Et c'est ce qu'on appelle le second flush, c'est-à-dire les deuxièmes bourgeons. Et la récolte du thé, elle est forcément faite manuellement. Avec le confinement en Inde, il y a aujourd'hui des problèmes de main-d'œuvre, comme il y a des problèmes de main-d'œuvre pour la récolte du café qui va commencer en Colombie et au Brésil. Comme il y a eu d'ailleurs des problèmes de main-d'œuvre en France pour les asperges ou les fraises. Et alors c'est là où l'on découvre, ou du moins on se rend compte, que dans bien des cas, notre bonheur agricole, il se fait sur le dos d'un sous-prolétariat plus ou moins exploité. Il n'y a plus de Marocains aujourd'hui qui travaillent dans toutes les grandes exploitations du sud de l'Espagne. Au Royaume-Uni, ils se plaignent de ne plus avoir leur ratio habituel de Polonais pour venir travailler dans les champs. Donc oui, il peut y avoir des problèmes, comme il y a d'ailleurs aujourd'hui même aux États-Unis, des problèmes liés au coronavirus, de fermeture d'un certain nombre d'abattoirs qui ont engendré aux États-Unis, alors ça peut faire sourire parce qu'ils en mangent de toute façon beaucoup trop, des pénuries de viande.
Alors il y a d'un côté la peur de la pénurie et de l'autre les problèmes de surproduction. Écoutez les témoignages de producteurs de pommes de terre qui ne parviennent plus à écouler leurs marchandises.
Traditionnellement, en début de campagne, nous travaillons avec près de 30 à 40% de nos ventes. Se font en restauration et grossiste. Et là, toute cette part de vente a disparu aujourd'hui et tout passe à 90%, 95% en grande surface.
Tout le monde me dit non, c'est pas possible, plus de débouchés, plus de consommation, plus ci, plus là. Alors ici, il y a quelques jours, je me suis dit pourquoi pas les donner à des associations. C'est une denrée périssable et que Le point de germination commence à arriver, c'est la fin, quoi, d'ici un mois, quoi.
Il est certain qu'une très, très grosse partie de ce qui est dans les cours de ferme va partir en biométhanisation, une partie va partir en nourriture animale, mais il aurait été absolument abject de ne pas proposer aux gens qui ont des difficultés pour avoir des approvisionnements, les Restos du Cœur, toutes les ASBL qui s'occupent de la précarité, que ces gens-là ne puissent pas disposer de ce dont ils ont besoin.
Les producteurs de pommes de terre et d'autres producteurs traversent une crise de surproduction que le stockage ne peut pas toujours résoudre, Philippe Chalmant.
Eh ben non, les pommes de terre, cela a été dit, à un moment où ça commence à germiner, donc soit vous allez vers l'industrie, donc fabrication de frites congelées, purées et autres machins de ce genre, mais de toute manière, les débouchés ne peuvent pas augmenter considérablement, mais ce que vous avez perdu sur le marché du frais, vous ne le récupérez pas. Je vous en donner un autre exemple, c'est la production laitière. Les vaches ne peuvent pas produire du lait en fonction de la demande, surtout qu'on était justement vers février-mars au point haut de la lactation. Comme nous avons moins consommé de produits laitiers frais, il y a eu moins de demandes. Donc les industriels, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils sont allés vers des produits que l'on peut mieux conserver, parce que le lait frais, vous ne le conservez pas. Par contre, vous pouvez le transformer en beurre et en poudre de lait, ou bien en ce qu'on appelle les fromages de garde, comme le cheddar et autres variétés de ce genre. Et le résultat, on a eu une augmentation de la production de beurre et de poudre de lait, ce qui a provoqué d'ailleurs une baisse des cours sur le marché européen. L'autre exemple, le confinement a entraîné une diminution de la production de bière. Que fait-on des orges brassicoles ? Les prix en sont tombés, et puis il y a un moment où ces orges qui ont été sélectionnées pour produire de la bière, ben elles seront données en alimentation animale.
Ce qui soulève la question du rôle de l'État face à l'effondrement des prix ou de la production. Au cours du XXe siècle, la puissance publique est fréquemment intervenue pour tenter de réguler les prix agricoles, Philippe Chalmant ?
Oui, le XXe siècle a été le grand siècle de ce qu'on a appelé les politiques agricoles. Je rappelle que la première grande politique agricole, c'est celle qui est lancée par le New Deal de Roosevelt en juin 1933 avec l'Agricultural Adjustment Act, et qui a été la base d'ailleurs de la politique agricole américaine jusqu'à nos jours, qui elle est fondée moins sur la régulation des prix que sur la garantie des revenus. Aux États-Unis, on n'a pas cherché à trop influencer le marché. Par contre, on a mis en place un système d'aide compensatoire que l'agriculteur touchait en fin de campagne. Ensuite, nous avons eu la politique agricole commune en Europe à partir de 58-62, qui, elle, était fondée sur un principe différent, c'était des garanties de prix, et c'était à Bruxelles, à l'occasion des célèbres marathons agricoles, que l'on décidait des prix agricoles de la campagne à venir. Il se trouve que, pour des tas de raisons, l'influence agricole s'est trouvée de moins en moins importante. Les coûts de la PAC étaient quand même relativement disproportionnés par rapport à l'importance de l'agriculture dans l'économie européenne.
Philippe Chalmant, n'allons pas trop vite en besogne. Je voudrais d'abord qu'on entende le général de Gaulle lors d'une conférence de presse le 14 janvier 1963. Il parle du traité de Rome qui prévoyait justement la création de la politique agricole commune.
Ce traité qui était assez précis, assez complet à propos de l'industrie, n'était pas du tout au sujet de l'agriculture. Et cependant, pour notre pays, il fallait que ce fût réglé. Il est bien évident, en effet, que dans l'ensemble de notre activité nationale, l'agriculture est un élément essentiel. Nous ne pouvons pas concevoir, et nous ne voulons pas concevoir, un marché commun dans lequel l'agriculture française ne trouvera pas des débouchés à la mesure de sa production. Et nous convenons d'ailleurs que parmi les six, nous sommes le pays pour lequel, auquel cette nécessité-là s'impose de la manière la plus impérative. C'est pourquoi, quand en janvier dernier, on pensa à mettre en œuvre la deuxième phase du traité, autrement dit un commencement en pratique d'application, nous avons été amenés a posé comme condition formelle l'entrée de l'agriculture dans le marché commun. Cela fut finalement accepté par nos partenaires, mais il y fallut des arrangements très complexes et très difficiles.
La politique agricole commune a réussi à protéger l'agriculture européenne des fluctuations des marchés internationaux, comme elle s'en était donné l'objectif, Philippe Chalmant ?
Ah, tout à fait. Elle a admirablement réussi, puisque les agriculteurs ont bénéficié de prix garantis. L'erreur historique a été probablement que dans les années 60, lors de la première fixation des prix, On s'est aligné à l'époque sur les prix les plus élevés des agriculteurs les moins efficients qui étaient les agriculteurs allemands. Ça a arrangé tout le monde. Ça a quand même pas mal décalé les prix européens des prix mondiaux. Ça a été une extraordinaire incitation à produire. Et ça a fait que l'Europe, qui à 6, puis à 9, puis à 12 était déficitaire, est devenue excédentaire, au moins pour les principales productions, les céréales, les viandes, les produits laitiers, etc. Le problème est que, alors ça n'a pas été toujours très très facile, qu'il y a eu ensuite l'instabilité monétaire qui a posé d'énormes problèmes pour maintenir le principe de prix unique européen. Et puis, le problème a été que l'Europe devenant exportatrice, eh bien, elle a été de plus en plus condamnée dans les enceintes internationales. Le vent, je dirais, du libéralisme économique a aussi soufflé et il a emporté lambeau après lambeau la politique agricole commune, dont le dernier morceau a disparu il y a maintenant un peu plus de 2 ans. C'était le système des quotas sucriers. Donc aujourd'hui, la politique agricole commune, elle n'existe plus. Elle est une vague politique agro-écologico-rurale, mais il n'y a plus pour les producteurs les protections que leurs parents ont pu connaître dans les glorieuses années 60, 70, 80.
Et l'un des tournants, justement, c'est dans les années 80, lorsque les prix garantis sont réduits au profit d'aides directes aux revenus des producteurs.
Oui, alors ça a été l'issue des négociations de l'Uruguay Round du GATT. L'agriculture a bloqué l'Uruguay Round pendant 4 ou 5 ans et il a fallu finalement arriver à trouver un accord qui n'était pas forcément mauvais, dans lequel on réduisait effectivement les prix, mais en échange, on mettait en place des aides directes. Alors, les mécanismes de garantie des prix demeuraient en l'état. Peu à peu, ils ont d'ailleurs disparu. Et les aides directes existent aujourd'hui, mais elles se sont extrêmement complexifiées pour répondre à des cahiers des charges, certainement tout à fait valables et justifiables, mais très complexes pour les agriculteurs, notamment dans un verdissement de la PAC qui, pour nombre d'entre eux, est devenu extrêmement difficile à gérer.
Mais est-ce que la crise actuelle, Philippe Chalmin, ne révèle pas la nécessité de ce qu'il reste de la PAC, selon vous, malgré ses insuffisances ?
Le coronavirus n'a pas véritablement provoqué de crise alimentaire, ou simplement peut-être dans les têtes. Car, il faut le reconnaître, nous avons pris des goûts alimentaires qui font que nous importons effectivement des produits que nous ne pouvons pas produire sur notre sol. Que, paradoxalement, depuis quelques années, l'agriculture française a perdu en compétitivité par rapport à d'autres agricultures européennes pour lesquelles les contraintes environnementales et réglementaires sont peut-être un peu moins importantes. Nous continuons quand même à être aujourd'hui d'une autosuffisance alimentaire à peu près totale sur la plupart de nos grandes productions. Simplement, effectivement, dans certains cas, je vais prendre la production de porc, l'Espagne nous est largement passée devant et les principales exportations européennes de viande porcine vers la Chine, ce sont l'Espagne, les Pays-Bas et l'Allemagne, la France étant relativement loin. Mais il est très difficile aujourd'hui de pouvoir développer une exploitation porcine en France par rapport aux contraintes que l'on peut voir en ce qui concerne l'Espagne ou l'Allemagne. Et donc, on a un certain nombre de handicaps non marchands qui pèsent. Et une des bonnes conséquences finalement de la crise du coronavirus, c'est qu'elle aura peut-être essayé de redonner à nos compatriotes et aux consommateurs, un, le goût de la proximité, et deux, le goût de la saisonnalité. Si vous voulez des fraises au mois de février, ce ne seront pas des fraises françaises. Et il faut peut-être retrouver quelque part le goût des saisons.
La politique agricole commune entendait stabiliser les prix, et c'était aussi le cas de ces accords internationaux qui ont été mis en place après la fin de la guerre de Corée en 1953, Philippe Chalmin.
C'est même antérieur, puisque le premier accord international portant sur le blé a été signé en 1934 dans la foulée de la Conférence internationale économique de Londres qui avait essayé de mettre un terme à la crise de 1929. Donc vous voyez que le rêve de la stabilisation des prix internationaux est un rêve ancien, et vous avez raison, au lendemain de la guerre de Corée, nous avons eu un certain nombre de nouveaux accords internationaux sur le blé qui n'ont pas malheureusement été d'une bien grande efficacité. Dans les années 70, on s'est essayé, alors là, beaucoup plus largement, à stabiliser les prix des produits de base. C'était le programme de la quatrième CNUSED, le programme intégré des produits de base, qui prévoyait la signature de 18 accords de stabilisation de produits, essentiellement des produits agricoles, mais il y avait aussi le cuivre, il y avait quelques minerais et métaux. Et il y a eu effectivement des accords qui ont fonctionné pour le blé, pour le sucre, pour le café, pour le cacao et le caoutchouc.
Et alors pourquoi ont-ils disparu ?
Ils ont disparu parce que il était très difficile d'avoir tout le monde autour de la table au même moment. Il était très difficile à ce que tout le monde joue le jeu en même temps. Et même pour les accords qui ont bien fonctionné, notamment avec un système de stock régulateur. C'était pas idiot. Pour des produits qu'on peut conserver, eh ben, le stock achète quand les prix baissent et vend quand les prix montent. Et c'est ainsi qu'a fonctionné le dernier accord jusque vers, dans les années 90, vous aviez un accord international sur le caoutchouc naturel et qui était rendu d'autant plus facile qu'il y avait que trois grands producteurs, la Malaisie, l'Indonésie et la Thaïlande. Donc, ils pouvaient assez facilement s'entendre entre eux. Et c'est entre eux qu'ils ont décidé de mettre un terme à cet accord, tout simplement parce qu'il devenait trop coûteux et que le rapport coût-avantage ne plaidait plus pour le maintien d'un accord de ce type. On a repris ces discussions lorsque la France présidait le G20 en 2010. Bruno Le Maire, qui était ministre de l'Agriculture à l'époque, avait repris son bâton de pèlerin pour essayer de parler de stabilisation de marché. Mais il a un peu prêché dans le désert, malheureusement, et finalement, on n'y est jamais arrivé. Et toute la réflexion sur cette idée de stabiliser les prix, finalement, a été abandonnée au profit d'une logique qui est maintenant d'ailleurs celle de la plupart des politiques agricoles, c'est-à-dire de logique d'aide directe. Simplement, on pourrait se dire, mais nous n'avons pas d'organisation internationale suffisamment souple pour cela, qu'en certains moments d'urgence, on pourrait imaginer des mécanismes permettant d'assurer un plancher minimal. Mais même dans ce genre de cas, ça n'est pas forcément évident. Je vais reprendre un exemple qui a quelques jours. Face à l'effondrement des prix du pétrole, il s'est réuni au Texas, la commission de régulation du marché du pétrole, il leur avait été soumis l'idée de mettre en place des quotas de production de pétrole. Eh bien, ça a été refusé à la demande même d'une bonne partie de l'industrie qui estimait que ce n'était pas à l'État de se mêler de ce genre de choses. Et il y a un blocage idéologique. Je prétends que pour les produits agricoles, je sais bien que ça peut apparaître choquant et que pour nous, le blé, le riz, ils ont cette valeur symbolique de nourrir les hommes. Mais, comme je vous l'expliquais, dans la quasi-totalité des cas, les émeutes de la faim, ce sont pas des émeutes liées à des problèmes agricoles. Et l'Inde a une politique qui est que Amartya Sen avait beaucoup critiqué à une époque. Vous avez 500 millions d'Indiens qui bénéficient de produits agricoles à des prix subventionnés. Et en même temps, l'Inde a une politique agricole avec des prix garantis. Ça a quand même relativement bien marché, puisque l'Inde est autosuffisante du point de vue agricole. Elle est même de temps en temps exportatrice, notamment pour le blé et pour le sucre. Mais il n'en reste pas moins que dans les 850 millions de gens souffrant de pauvreté alimentaire au sens de la FAO, il y a 150 millions d'Indiens.
Philippe Chalmin, on arrive au terme de cette émission. Pour conclure, vous diriez que cette crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui devrait avoir des conséquences durables sur les prix des denrées alimentaires et de l'énergie ?
Sur les prix de l'énergie, certainement. Dans la mesure où nous mettrons du temps à nous remettre de cette crise, que le pétrole, le gaz naturel me semble durablement peu cher et que cela pourrait même avoir des conséquences assez graves sur l'appareil de production américain. Je ne suis pas sûr que l'appareil de production américain se remettra de ce contre-choc comme il s'était remis du contre-choc de 2014. Puis ça aura des conséquences dans les 4 ou 5 années à venir, parce qu'on va payer dans 4 ou 5 années le déficit d'investissement, de tous ces investissements qui aujourd'hui sont arrêtés par la baisse des cours et par les difficultés auxquelles sont confrontées compagnies et investisseurs. Sur la scène alimentaire, je dirais que il n'y a pas eu de crise alimentaire. Il y a eu une crise alimentaire dans les têtes, dans les discours. Mais sur le terrain, il n'y a pas eu de crise alimentaire. Et ce qu'alors, effectivement, on peut se dire tout bêtement que comme ça fait 3 ans que nous avons pratiquement un climat optimal et des conditions climatiques optimales, peut-être que l'année prochaine, nous pourrions avoir des problèmes climatiques. Peut-être aurons-nous un retour de cet épisode El Niño dont je vous parlais, qui intervient normalement tous les 6 ou 7 ans et qui pourrait modifier nos équilibres alimentaires.
Mais sinon, les prix alimentaires assez bas devraient perdurer.
Autant j'arrive à peu près, avec toute la malhonnêteté intellectuelle que vous pouvez imaginer à l'économiste, à faire des prévisions en ce qui concerne l'énergie et même les métaux. En ce qui concerne l'agriculture, je suis au même niveau que les météorologues. Je peux toujours vous raconter ce que sera le climat l'année prochaine. Je n'ai aucune idée du temps qu'il fera demain.
Mais il y a maintenant des stocks très importants à cause de la baisse de la demande.
Il y a des stocks importants, avec des problématiques d'ailleurs de savoir exactement ce qu'il y a par exemple dans les stocks chinois. Donc, vous avez les stocks théoriques, les stocks statistiques, et puis vous avez les stocks disponibles chez les grands exportateurs. C'est ça qui compte. Et au fond, le Covid-19 nous a fait oublier une autre pandémie. Quelle était la grande pandémie dont nous parlions en 2019? C'était la peste porcine africaine en Chine, qui a amené à l'éradication pratiquement de la moitié du cheptel porcin chinois. Quand vous regardez, nous publions maintenant depuis 40 ans, plus de 40 ans, le rapport Cyclope, chaque année, nous avons déjà eu des pandémies et des pandémies animales. Nous y sommes habitués, la grippe aviaire, la peste porcine africaine, etc. Et cela, effectivement, c'est un dossier qui est important. Nous pourrions avoir de nouvelles pandémies. On sait, par exemple, que la peste porcine africaine, elle est en Pologne, et elle est pratiquement aux portes de l'Allemagne.
On se quitte avec Simmer, extrait du dernier album de Hayley Williams. Merci beaucoup Philippe Chalmin de nous avoir accompagnés depuis chez vous tout au long de cette émission. Et merci à tous les responsables techniques qui ont rendu possible cet entretien à distance. Jean-Marc Clauss, Marie-Christine Vesely, le CDM et notre technicien du jour Nasser Moussaoui. Philippe Chalmin, je précise que le rapport Cyclope 2020 sera publié le 9 juin aux éditions Economica. On mettra les références sur la page de l'émission. Rage. Demain, ne ratez pas le 4e et dernier épisode de notre série logistique. La crise sanitaire a-t-elle consacré le triomphe des plateformes? On posera la question au sociologue Antonio Casilli et à l'économiste Philippe Askenazi. Mais d'abord, dans un instant, ce sera l'heure de la compagnie des œuvres avec Mathieu Garicou-Lagrange. Bonne journée à l'écoute de France Culture et à demain. Simmer.
then cuts like the mother. Simmer down.